Épilogue. Millie. 3 mois plus tard. Je ne comprends pas comment Enzo peut avoir emmagasiné autant de trucs dans son petit studio. Il entre dans mon appartement, chargé du 10 millionième carton, j'ai l'impression, rempli de ses affaires, et l'empile sur un autre carton. D'accord, ce n'est pas une torture de regarder Enzo porter des cartons, les muscles de ses bras bandés sous son t-shirt, mais pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il a fourré dedans? De ce que j'ai vu, le gars tourne avec 7 ou 8 t-shirts et 2 jeans. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir d'autre? C'est tout? Je lui demande. Il essuie la sueur de son front. Non, il en reste encore 2. Encore 2? Je commence presque à regretter. Enfin, non, pas vraiment. Après avoir rompu avec Brock, j'ai repris avec Enzo là où on s'était arrêté avant qu'il parte en Italie. Sauf que cette fois, on savait tous les deux qu'on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Donc, quand il a fini par remarquer qu'il jetait l'argent du loyer par la fenêtre tous les mois, vu qu'il passait ses nuits à mon appartement, j'ai rapidement suggéré qu'il emménage avec moi. C'est drôle. Quand c'est le bon, on sait que c'est le bon.
2 petits cartons, précise Enzo. Rien du tout.
Je ne le crois pas. Sa définition de petit carton englobe tout ce qui pèse moins que moi. Il m'adresse un large sourire.
Désolé, je suis pénible.
Il n'est pas du tout pénible. En fait, il est la seule raison pour laquelle on m'a permis de rester dans cet appartement. Avant qu'Enzo aille lui toucher 2 mots, Madame Rendall était prête à me mettre à la porte, alors même que j'étais complètement disculpée. Et là, tout à coup, la voilà d'accord pour que je reste. Quel charmeur, décidément. Enzo traverse la pièce et vient m'enlacer. Et je me fiche qu'il soit un peu en sueur à force de transporter des cartons entre nos appartements. Je le laisse quand même m'embrasser. Toujours.
« Ok »,
dit-il quand il s'éloigne enfin.
« Je vais chercher les autres boîtes. »
Je gémis. Tous les deux, il va falloir qu'on les passe au crible, ces cartons, et qu'on se débarrasse de beaucoup de choses. Et de mon côté, j'ai prévu de vider quelques tiroirs aujourd'hui. Quelques minutes après le départ d'Enzo, l'interphone de la porte d'en bas retentit. Il a parlé de prendre des pizzas pour le dîner, mais je ne pense pas qu'il ait déjà passé la commande. Donc, il ne reste qu'un visiteur possible. J'appuie sur le bouton qui ouvre la porte. 1 minute plus tard, on tambourine à ma porte. J'attrape le carton qui était posé sur mon lit et le déplace dans le salon. Je le tiens en équilibre avec un bras pendant que je déverrouille de l'autre main. Brock est planté devant ma porte. Comme toujours, il est vêtu d'un de ses costumes coûteux, ses cheveux sont parfaitement coiffés, ses dents d'un blanc éclatant. C'est la première fois que je le vois depuis 3 mois, et j'ai l'impression d'avoir oublié entre-temps sa beauté parfaite. Je suis sûre qu'il fera un merveilleux mari un jour, mais pas pour moi.
« Salut », il dit. « Tu as mes affaires ?»«
Tout est là. » Et je lui passe le carton. En essayant de faire de la place pour Enzo, j'ai remarqué que j'avais encore un tiroir rempli des vêtements de Brock et des affaires qu'il avait laissées derrière lui. J'ai envisagé de tout jeter, puis je me suis souvenue de son coup de fil pour m'avertir que la police avait un mandat d'arrêt contre moi. J'ai donc décidé de l'appeler et de lui demander s'il voulait récupérer ses affaires. Il m'a promis de passer le lendemain.
« Merci, Millie. »
« Pas de problème. » Il hésite devant la porte.
« Tu as l'air en forme ?»«
Oh, bon Dieu, on va jouer à ce jeu-là. »« Merci. Toi aussi. » Je réponds. Et puis, parce que je ne peux pas m'en empêcher, j'ajoute. « Est-ce que tu vois quelqu'un ?» Il secoue la tête.
« Personne en particulier. »
Il ne me renvoie pas la question, ce dont je lui suis reconnaissante. Après toutes les fois où j'ai refusé quand il m'a proposé de vivre avec lui, il serait blessant pour lui que je lui apprenne mon emménagement avec Enzo. Et malgré la façon dont les choses se sont terminées avec Brock quand il m'a laissé en plan au poste de police, je sais qu'il m'aimait. Beaucoup plus que moi.
Bon.
Il change le carton de bras.
Bonne chance pour... tout.
À toi aussi. À bientôt, sans doute. Je ne sais pas pourquoi j'ai ajouté cette dernière partie. Je ne le reverrai probablement jamais. Je suis sur le point de fermer la porte quand Brock tend la main pour la retenir.
Au fait, Millie ?
Oui ? Il secoue le carton, regarde son contenu, puis relève les yeux vers moi.
Mon autre flacon de pilules est là-dedans ?
J'enfonce mes ongles dans ma paume.
Quoi ? Mon flacon de digoxine de secours ? Clarifie-t-il. Celui que je gardais dans ton armoire à pharmacie en cas de pépin pour les nuits que je passais chez toi, tu l'as toujours ? Je le prends quand je pars en voyage. Je plante mes ongles plus profondément dans ma peau. Non, je l'ai pas vu dans l'armoire à pharmacie. J'ai dû le jeter, désolé. Il agite la main. Pas de souci. Je suis content que tu n'aies pas jeté mon sweatshirt de Yale. Pour la deuxième fois, Brock agite la main et au lieu de fermer la porte, je le regarde descendre l'escalier en retenant mon souffle tout du long. Je ne le relâche qu'en le voyant disparaître de ma vue. Je ne pensais pas qu'il se souviendrait du flacon de pilules qu'il avait laissé dans l'armoire à pharmacie. Moi, en tout cas, je m'en suis rappelée. Quand je l'ai trouvé la première fois, à l'époque où on sortait ensemble, j'ai fait une recherche sur le médicament, juste pour en savoir plus sur mon petit ami. J'ai ainsi découvert que la digoxine, à forte dose, pouvait provoquer une arythmie fatale, information que j'ai stockée dans un coin de ma tête à l'époque. La digoxine, malgré ses dangers, est un médicament pour le cœur couramment utilisé. Si couramment que même Douglas Garrick en prenait pour son problème de fibrillation auriculaire. Sauf que les cachets avec lesquels Wendy Garrick a fait une overdose ne provenaient pas de la pharmacie de Douglas, comme la police l'a supposé. Après avoir pris les clés de la voiture d'Enzo et appris qu'il y avait probablement un mandat d'arrêt contre moi, je ne suis pas allée au chalet. Tout compte fait, j'ai tenu ma promesse faite à Enzo. Non, à la place, j'ai roulé jusqu'à Manhattan. Je suis allée frapper chez la femme de Russell Simons, Mary Bess, qui se trouvait être une employée du vrai Douglas Garrick, et je me suis présentée. Mary Bess s'est avérée une femme charmante, que la mort de son patron avait bouleversée, et je me suis sentie mal de devoir lui révéler ce que je savais sur son mari. Mais notre longue conversation l'a rassérénée. Et après s'être rappelé la police d'assurance bien dodue souscrite par Russell quelques années plus tôt, Mary Bess a décidé d'entreprendre un petit voyage thérapeutique jusqu'au chalet dans les bois. Quant à moi, j'ai continué mon chemin, délesté d'un flacon de digoxine. L'ironie de la chose, c'est que si Wendy avait donné à son mari une dose un peu augmentée de ses propres médicaments, ça l'aurait probablement tué, et il aurait été difficile de prouver que cette mort n'était pas accidentelle. Elle aurait pu s'épargner beaucoup d'ennuis. Au lieu de quoi, elle a commis une erreur de jugement incroyable. Elle a sous-estimé une personne extrêmement dangereuse. Moi. Et elle en a payé le prix ultime.